Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Dans ce numéro, d'ailleurs qui est le dernier de cette saison avant la pause estivale, nous irons en Côte d'Ivoire faire le point sur la coopération avec le Maroc dans le secteur halieutique. Vous entendrez au cours de cette émission Sidi Tiémoko Touré, il est le ministre ivoirien des ressources halieutiques. Ce sera dans le reportage de notre correspondant à Abidjan, Max Soubi. Et puis nous reviendrons sur l'état du secteur de l'impression et de l'édition en Afrique. Rabia Mahrouche, elle est la fondatrice de la maison d'édition Africa Mood basée à Rabat, en parlera dans le Zoom Express. Et notre destination éco nous mène en République démocratique du Congo et avec notre invité Khalid Bouksib, consultant en stratégie et relations internationales, nous mettons le focus sur les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo, mais aussi comment renforcer la coopération avec le Maroc. Vous l'entendrez au cours de cette émission. Tels sont les principaux sujets de Coémergence. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, dans cette émission, nous faisons le point sur la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire dans le domaine halieutique. Une coopération qui s'est intensifiée et concrétisée à plusieurs niveaux. Je vous propose d'aller à Abidjan écouter ce reportage de notre correspondant sur place, Max Soubi. Et dans ce sujet, vous entendrez Sidi Tiémoko Touré, ministre ivoirien des ressources halieutiques.
Le Royaume du Maroc figure parmi le trio d'investisseurs privés en Côte d'Ivoire. Une place de choix rendu possible grâce à la coopération économique entre les deux États. Outre la réalisation des infrastructures telles que la baie de Cocody ou encore le cinquième pont, devenu des cartes postales d'Abidjan, au niveau de la pêche, le Royaume du Maroc a su apporter sa pierre à la redynamisation du secteur. Sidi Tiémoko Touré, ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques.
Ce qu'il a fait de façon spécifique pour le secteur de la production halieutique en Côte d'Ivoire. Et pour cela, j'aimerais citer les deux débarcadères qui nous ont été offerts. Vous avez le débarcadère de Lokodiro, qui porte d'ailleurs son nom, qui a permis aujourd'hui de sortir des milliers de femmes de la vulnérabilité, des milliers de marailleurs de la vulnérabilité. Nous avons aussi le débarcadère de Grand Lao, qui d'ailleurs reste à nous être livré à travers les remises des clés, qui contribuera fortement à l'adressage de la vulnérabilité des population qui pêche dans cette zone.
Émanant de la vision stratégique du roi Mohamed VI pour une Afrique qui s'entraide, qui se développe et qui prospère, la coopération sud-sud entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire est saluée comme un exemple du partenariat fructueux entre les deux nations africaines. Sidi Tiémoko Touré, ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques.
Cette coopération, fort heureusement, est au beau fixe. Vous l'avez relevé fort à propos. Le père du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a gardé de très bonnes relations avec le fondateur de la République de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le feu Félix Houphouët-Boigny. Et ce sont leurs enfants, en l'occurrence du côté ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui adressent des problématiques de gouvernance, des problématiques de vulnérabilité dans leurs différents pays. Et voir cette coopération perdurer dans le temps est de bonne aloi pour les deux peuples.
Le ministre Sidi Tiémoko Touré, par ailleurs président de la COMAFAT, conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, annonce des perspectives prometteuses pour le secteur halieutique ivoirien. Max Oubi pour Médien, Abidjan.
Merci à vous, Max Soubi, correspondant de Médien 1 à Abidjan.
Zoom Express.
Nous reparlons du secteur de l'impression et de l'édition en Afrique et pour cela, nous avons le plaisir d'évoquer le sujet avec Rabia Mahrouche, fondatrice de la maison d'édition Africa Mood basée à Rabat. Bonjour à vous, Rabia Mahrouche. Alors, une question, comment se porte le secteur de l'édition sur le continent?
Alors, comment se porte cette économie du livre? Elle est assez fragile, hein, pour être honnête. Pour des raisons dont on avait déjà parlé, qui sont tout simplement la structuration du marché. Et l'autre nerf de la guerre de l'économie du livre, c'est la diffusion, la distribution des livres. Ça, c'est un vrai problème. On en parle à chaque fois qu'il y a des événements littéraires, des festivals. On fait des tables rondes pour en parler. Mais il manque encore des actions fortes dans cette direction pour structurer la diffusion, distribution, à la fois sur le plan national de chaque pays, mais aussi sur le plan transnational, parce qu'on a un énorme marché francophone, par exemple, dans lequel cette économie peut très très bien vivre et se porter très bien si on arrive à le structurer, à trouver ces circuits de diffusion, distribution pour que le livre arrive au lecteur. Les Africains lisent, il faut arrêter de dire qu'ils ne lisent pas, mais il faut leur mettre entre les mains les livres. Il faut créer des lieux pour que les lecteurs puissent trouver les livres. Il faut encourager la jeunesse à lire, à s'intéresser aux livres, à la lecture, à l'écriture. Et je me permets une petite parenthèse dans ce sens-là, dans nos actions chez Africa Mood. Nous avons lancé un concours d'écriture en direction des jeunes sur tout le continent, en français et en anglais, des jeunes entre 13 et 19 ans, pour qu'ils écrivent leurs histoires, leurs ressentis. Et notre thème cette année, c'est l'Afrique que nous voulons. Et justement, l'Afrique que nous voulons, je pense que c'est une Afrique qui lit, qui découvre les livres, qui achète les livres. Et c'est une Afrique pour laquelle les pouvoirs publics et nous tous en tant qu'acteurs culturels, nous devons faire beaucoup d'efforts pour leur donner les livres qu'ils méritent.
Alors, on sait tous qu'aujourd'hui, le numérique avance. Les Africains, l'industrie de la littérature et de l'édition africaine se trouve-t-elle plus sur le papier ou bien sur le digital?
Le digital n'est pas très très bien développé encore et je trouve que c'est un secteur dont il faudra bien s'occuper parce qu'il est porteur, à mon avis, pour l'Afrique. Par exemple, dont je viens de parler du concours, nous, on a ciblé les jeunes et on est présent beaucoup sur les plateformes numériques, sur les réseaux sociaux et c'est là qu'on les rencontre et c'est là qu'on arrive à les intéresser aux livres. Et d'ailleurs, tout le concours se passe sur Internet et nous publierons des e-book gratuit accessible à tous ces jeunes. On s'investit comme ça parce que c'est l'avenir, c'est l'investissement dans la jeunesse. Il faut lui donner d'abord la parole, ensuite créer cette émulation qui va lui permettre de se lire, d'écrire. Et ça se passe sur le digital parce que c'est là où se trouvent les jeunes aujourd'hui. Donc il ne faut pas diaboliser le digital, au contraire. Ça peut être un allié pour l'édition. Je profite aussi pour remercier nos partenaires qui nous soutiennent, nos partenaires institutionnels, l'Académie du Royaume du Maroc, qui nous soutient pour ce projet. Et notamment, je remercie le secrétaire perpétuel, Abdeljalil Ajomri, qui nous accompagne, parce que c'est très important qu'on soit soutenu par nos institutions pour justement permettre à cette jeunesse, sur le numérique ou sur le papier, là où elle est, à pouvoir s'intéresser aux livres. Donc, il ne faut pas diaboliser. Et donc, il faut créer plus de plateformes, au contraire. On va pouvoir mettre les livres numériques et audio, pouvoir les vendre. Et cette plateforme, elle nous manque encore aujourd'hui sur le continent. Le jour où on aura cette plateforme, je pense que les choses vont changer parce que ça va être une plateforme continentale qui s'adapte aux moyens d'achat des publics, des différents publics, pour qu'ils puissent accéder à nos livres à des prix qui leur sont aussi accessible et ça c'est très important.
Alors, une autre question qui s'impose, Rabia Mahrouche, je rappelle que vous êtes la fondatrice de la maison d'édition Africa Mood. Alors, qui profite plus économiquement aujourd'hui du monde de l'édition en Afrique? Est-ce les acteurs africains ou plutôt des acteurs internationaux hors du continent?
Je pense honnêtement que la littérature africaine, elle est beaucoup plus productrice de richesses économiques à l'extérieur. C'est d'ailleurs pareil pour le sport parce que quand vous voyez les grands stars du sport, elles sont dans des clubs étrangers pour lesquels ils génèrent des richesses. Et aujourd'hui, Quand on regarde par rapport à l'Afrique, le pourcentage de gains dans ce domaine-là pour le continent, il est très faible. Et c'est exactement pareil pour la littérature. Nos grandes stars se trouvent à l'étranger et se trouvent dans des entreprises éditoriales étrangères pour lesquelles ils génèrent beaucoup d'économies parce qu'ils se vendent très bien. C'est une littérature qui est demandée, qui est lue, qui est achetée et qui est primée aussi, puisque les écrivains, nos stars écrivains, reçoivent beaucoup de distinctions, beaucoup de prix littéraires très importants. Donc, moi, mon vœu, c'est que à l'avenir, demain, j'espère qu'on aura ces stars-là chez nous, ici, dans nos maisons d'édition locales, sur le continent, et qu'il puisse être cet accélérateur aussi de l'économie du livre sur le continent.
Merci à vous, Rabia Mahrouche. Je rappelle que vous êtes la présidente et fondatrice de la maison d'édition Africa Mood, basée à Rabat.
Coémergence, l'invité.
Notre invité de la semaine s'appelle Khalid Bouksib. Il est consultant en stratégie et relations internationales. Avec lui, nous mettons le focus sur les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo qui a été, je le rappelle ces jours-ci, secouée par une tentative donc de coup d'État selon les autorités de Kinshasa. Nous mettons le focus, nous, sur le plan économique avec Khalid Bouksib. Bonjour à vous, Khalid Bouksib, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Alors, vous venez de conduire une mission donc économique en République démocratique du Congo. L'objectif était d'encourager les investissements entre entreprises marocaines et congolaises. Alors, parlez-nous tout d'abord de cette mission de B2B que vous venez de mener en République démocratique du Congo.
Eh bien, tout simplement, en fait, moi, je suis associé au cabinet Nexia à Casablanca. Et puis, lorsque l'on parle de l'international avec nos clients et principalement de cette fameuse coopération Sud-Sud qu'il faudrait concrétiser, eh bien, on s'est aperçu que la plupart de nos clients avaient dans leur liste la République démocratique du Congo, parce que c'est un grand pays. Vous savez que ce sont des chiffres qui donnent le tournis parfois. Un fleuve qui fait 4700 km de long, 90 millions d'habitants. Rien que Kinshasa, c'est environ 15 millions d'habitants. Mais toutes ces entreprises qui avaient prévu de prospecter, de se développer ou d'exporter en République démocratique du Congo ne savaient pas comment s'y prendre. Et rares sont les personnes qui pouvaient les emmener et leur présenter le pays. Et la particularité que j'ai, c'est que c'est un pays que je connais bien. Ça fait maintenant quelques années que je travaille avec la République démocratique du Congo et j'ai même participé aux élections. Et là, l'opportunité était donnée justement à ces entreprises de découvrir et de confirmer en fait que l'un des pays où la croissance est encore possible pour nos entreprises marocaines, eh bien, c'est bien le Congo RDC.
Donc, alors, quelles sont les opportunités justement que les entreprises marocaines ont eu à déceler dans ce pays?
Alors, d'abord, les principales opportunités, ce sont bien sûr les infrastructures, parce que le pays est tellement vaste, ça fait, si je devais donner des ordres de comparaison, ça fait 4 fois la France ou 80 fois la Belgique. Donc, il y a toutes ces régions qui sont à désenclaver et donc tous les projets d'infrastructures à construire, principalement des ponts et des routes. Et là, en la matière, je dois dire que nos entreprises marocaines excellent, puisqu'elles opèrent déjà dans différents pays en Afrique. Ensuite, il y a le secteur de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Il y a à peu près 80 millions de terres arables. Donc, les terres arables non cultivées couvrent à peu près la totalité de la surface du Maroc. Donc là aussi, des acteurs marocains de grandes compagnies se sont empressés de présenter quelques projets de coopération, ou bien pour exporter au Congo, ou bien pour cultiver sur place. Et puis après, il y a tous les autres secteurs tels que les hydrocarbures, les mines, bien évidemment, et puis les services et les nouvelles technologies.
Alors, il est vrai que quand on parle de certaines parties du continent, on met toujours en avant la difficulté du climat des affaires dans certaines économies, qu'il y a un contexte local qu'il faut maîtriser. Dans le cas de la République démocratique du Congo, qu'en est-il?
Alors, vous dire que les choses sont simples, ce serait vous mentir. Mais ça n'est pas plus compliqué que dans d'autres pays. Vous savez, moi, pendant des années, j'emmenais des entreprises françaises pour qu'elles s'installent au Maroc et elles me disaient que le contexte n'était pas simple pour elles. Je pense que tout est affaire d'approche culturelle. Et en la matière, le Congo ne fait pas exception. Et toute une batterie de services et d'institutions sont mis à la disposition des investisseurs et de celles et ceux qui voudraient entreprendre. Par exemple, nous, cette mission de prospection économique, nous l'avons menée en collaboration avec l'ANAPI, l'Agence nationale de promotion des investissements, qui, il y a un an, avait déjà emmené une cinquantaine d'entreprises congolaises au Maroc. Et puis, nous l'avons fait aussi avec la Chambre de commerce maroco-congolaise. Donc, les institutions sont en place. Il y a des cadres très précis d'exonération en fonction des investissements que vous faites. Je veux dire, ce ne sont pas que des dispositions qui sont sur le papier, elles sont concrètes. Et d'ailleurs, pendant cette mission, nous sommes allés rencontrer des entreprises qui se sont installées, par exemple, en zone économique spéciale et qui ont témoigné d'abord de la bonne gestion du guichet unique et puis des bonnes dispositions fiscales et des incitations qui ont été réellement mises en place pour attirer les entreprises.
Alors, ces secteurs d'investissement, vous avez tout à l'heure parlé des BTP, hein, des travaux publics, notamment ce besoin en désenclavement donc, dans ce vaste pays qu'est la République démocratique du Congo. Alors, si vous connaissez bien ce marché-là, quelles sont les opportunités qui pourront davantage ou plus facilement sourire aux entreprises marocaines dans ce pays? Je le rappelle quand même, la République démocratique du Congo avec ses 100 millions d'habitants.
Alors, si, pour parler de la construction, je vais donner quelques chiffres. Il y a 150 000 kilomètres de routes, de réseaux ferroviaires ou de voies d'eau à réhabiliter. Et il y a en ce moment trois aéroports qui sont ou à construire ou à rénover. Et en dehors de ça, nos entreprises marocaines aussi, bon, elles l'ont fait par exemple à Abidjan, dans la baie de Cocody, elles l'ont fait au Sénégal. Il y a toute la partie logement, à la fois logements sociaux et logements de standing, où nous excellons en la matière. Vraiment, c'est un marché qui nous attend. Et la particularité du Congo, c'est qu'il y a un manque d'acteurs sur le territoire, ce qui fait que vous avez quelque part des monopoles par défaut et vous retrouvez les grands groupes qui s'accaparent à peu près les mêmes parts de marché parce qu'il n'y a pas assez d'acteurs sur le terrain. Mais moi, ce que j'ai voulu expliquer aux entreprises marocaines en les faisant venir au Congo, c'est que non seulement les opportunités sont là, mais le risque est partagé par les financeurs aussi. Donc, ils n'auront pas de risque de ne pas être payés, par exemple, parce qu'il faut le dire, c'était la première crainte des entreprises. Lorsque vous investissez quelque part, vous voulez avoir un retour sur investissement à plus ou moins long terme, mais vous voulez surtout, dans tous les cas, être payé. Et là, les projets sont vraiment multiples. Et surtout, en matière d'énergie, il y a quand même des sociétés marocaines qui commencent à opérer dans le pays, mais même dans la construction de centrales électriques, par exemple, notre savoir-faire est fortement sollicité et que les institutions congolaises font aussi l'effort de venir au Maroc pour prospecter et présenter ces opportunités aux entreprises marocaines, justement.
Alors, une question aussi qui se pose et que vous avez évoquée, c'est le financement, la rentabilité ou en tout cas ces facilités d'accès au financement sur le marché congolais. Quels sont les instruments de financement qui existent? Quelle collaboration peut exister entre les acteurs financiers marocains et congolais?
D'abord, je rappelle aux entreprises marocaines qu'il y a une banque marocaine qui est sur place, qui est Banque of Africa. Et parfois, ça peut rassurer aussi d'avoir notre propre institution bancaire sur le territoire. Ensuite, ce qui est encouragé, ce sont les concessions ou les partenariats publics-privés qui sont parfaitement encadrés les dispositions sont tout à fait claires. Et puis, dans tout ce qui va être projet stratégique ou avec un impact social et territorial, vous avez toutes les institutions internationales qui ou financent ou cofinancent les projets. Je pense par exemple à la Banque africaine de développement, à la BAD, vous avez l'Agence française de développement, vous avez le Fonds monétaire international. Et aujourd'hui, la confiance envers la République démocratique du Congo est en train de changer puisqu'elle fait aujourd'hui gage de bonne gestion, que sa notation est en train de changer. Et donc, il y a de plus en plus de budgets qui sont alloués au projet au Congo RDC.
Merci à vous, Khalid Bouksib. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie et en relations internationales. Vous nous parliez de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.
Destination Écho.
Et nous restons en République démocratique du Congo pour réécouter Eric Nindou, un proche collaborateur du président congolais Félix Tshisekedi. Nous l'avons reçu il y a de cela quelque temps dans Coémergence. Il nous parle des priorités économiques du gouvernement congolais.
Nous sommes justement dans un pays où l'État est le premier employeur du pays, ce qui est une aberration. Parce que dans un pays comme le Congo, où il y a un potentiel immense, notamment dans les infrastructures, dans les services, dans la production comme telle, il faudrait que le secteur privé prenne sa part. Malheureusement, c'était ça, la compétitivité n'était pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'il y avait trop de taxes, il y avait trop de corruption aussi, il faut le dire. Et le président a mis en chantier tout un tas de réformes qui ont permis notamment de lutter contre la corruption. Exemple pour ça, preuve de ça, c'est que le budget est passé de 2019 à 2023 de 4 milliards de dollars à 16 milliards de dollars. Il a été quadruplé. Pourquoi il a été quadruplé ? Pas par magie, c'est tout simplement parce que la lutte contre la corruption a fait que tout l'argent qui était perçu, par exemple, au niveau des douanes, au niveau des régies fiscales, maintenant va vers les caisses de l'État. Avec un budget de 16 milliards, ce n'est pas encore suffisant pour un grand pays de 100 millions d'habitants, mais on est dans une courbe ascendante, ce qui permettra non seulement à l'État de pouvoir pourvoir à ses besoins, mais aussi d'investir. Voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est pour la première fois de l'histoire du Congo que nous avons atteint ce qu'on appelle la cinquième revue du cadre général de la dette avec le FMI. Ça a été fait tout récemment, au mois de septembre 2023. Ça donne, on sait bien que le FMI ne va pas aider le Congo à se développer, mais ça donne de la crédibilité au Congo. En même temps, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, les bonnes notations des agences internationales, je dois ajouter celle, par exemple, de l'agence Bloomfield, qui est basée en Côte d'Ivoire, une agence qui a la spécialité de noter les pays africains en monnaie locale, et elle nous a mis une cote B++, c'est-à-dire vraiment favorable. Donc, de ce point de vue-là, le Congo est sur la bonne voie, mais il faut effectivement pousser le secteur privé, et notamment, là-dessus, je termine, le président a mis en place ce qu'on appelle le FOGEC, c'est un fonds de garantie pour les jeunes entrepreneurs, et il a mis aussi en place ce qu'on appelle le PADMPME, le programme d'aide au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Parce que c'est ça le tissu économique. On doit créer de milliers et des milliers de petites entreprises qui vont pouvoir aider les Congolais à travailler.
Alors, ce sera peut-être ma dernière question. C'est par rapport à l'attractivité donc, des investissements. On sait que le Maroc est un pays qui est très présent sur le continent. C'est le deuxième investisseur africain en Afrique.
Absolument.
Si vous aviez un message à lancer aux hommes d'affaires et aux investisseurs du continent, notamment ceux du Maroc, quel serait ce message-là, Eric Nindo?
Ce message-là, c'est qu'il faut venir au Congo. Il faut y venir maintenant. Parce que le pays est justement dans une courbe ascendante, dans une bonne tendance de réforme. Il y a une véritable volonté de réforme du pays pour assainir les finances publiques et pouvoir aller de l'avant. 6,4 millions d'emplois à créer en 5 ans. La deuxième chose, augmenter le pouvoir d'achat des Congolais. Et la troisième chose, pouvoir assurer la sécurité et la stabilité. On sait très bien que la base d'une économie, il faut la stabilité. Le Maroc a cette chance d'être un pays stable, qui peut faire des projets sur le long terme. Comme on dit souvent, on ne peut pas résoudre des problèmes structurels avec des mesures conjoncturelles. On est souvent soumis au court-termisme en Afrique parce que tout est urgent. Au Congo, on a une perspective avec un président qui sait où il veut amener le Congo. Il sait que le Congo se développera dans 20 ans peut-être, mais il faut le mettre sur la bonne voie. Et notamment, une dernière chose que je crois qui est très importante, c'est d'abord que le Congo, comme les autres pays africains, doit miser sur ce qu'on appelle la croissance verte, la green economy. Parce qu'on a la chance d'être les derniers dans le train de l'industrialisation. Donc, on peut faire ce qu'on appelle un leapfrog, un saut de grenouille, en tout cas, pour passer à une nouvelle technologie. Et le président a investi là-dedans, notamment en ce qui concerne les économies vertes, l'hydroélectrique, Inga, qui est connu du monde entier,
le
barrage d'Inga, le solaire, il y a des stations solaires qui sont en train d'être construites. Et on pourrait là-dessus imiter l'exemple du Maroc, hein, qui est un pays qui a vraiment investi dans la green economy. Et enfin, l'autre aspect, c'est ce qu'on appelle le dividende démographique. 100 millions d'habitants, une perspective de 200 millions d'habitants en 2050, avec près de 60% de jeunes de moins de 20 ans, il faut trouver des emplois pour ces jeunes. Et pour que notre dividende soit réellement, la démographie soit un dividende pour nous, il faut investir dans le capital humain. C'est pour ça que le président est en train de construire 5 grandes universités au Congo. Ce qui n'avait jamais été fait, pour que ces jeunes soient formés et qu'on ait justement ce capital humain qui va permettre le développement du pays.
Merci à vous, Eric Nindou. Je rappelle que vous êtes un proche collaborateur du président congolais Félix Tshisekedi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programmes sur Medium et au plaisir de vous retrouver après la pause estivale sur Medium.